Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mesdames. Et. Ah, si, il en reste. Bonsoir, messieurs. Peut-être ils ont un bracelet électronique. Bon. Eh bien, écoutez, bienvenue. Hein, bienvenue à la dernière. À la 45e. Je fourche tout le temps. C'est un problème. À la 45e cérémonie des Césars. Je suis très heureuse d'être là. Enfin, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Là, c'est pas le sentiment premier, hein. Heureuse, non. Je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas l'odeur.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una all to vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Et si ce n'est pas une première dans l'histoire des Césars, ça y ressemble. Une actrice, Adèle Haenel, quitte la cérémonie après l'annonce du troisième César décerné à Roman Polanski, celui du meilleur réalisateur. C'était hier soir, appelait-elle, à l'issue d'une soirée très longue, très ennuyeuse, pas vraiment drôle, limite embarrassante. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est le résultat des votes, 3 statuettes pour l'auteur de J'accuse, malgré controverses, protestations et rassemblements hier soir aux abords d'une cérémonie, la 45e, qui a sacré Les Misérables meilleur film, Anaïs de Moustier meilleure actrice et Roche Dizem meilleur acteur. Nous reviendrons sur cette soirée. Mais ce matin, nous avons choisi de réserver nos récompenses à 3 corps de métier du cinéma indispensables et qui ne montent jamais sur la scène. Bonjour Valérie Rouchet.
Bonjour.
Première assistante mise en scène, un métier pivot au sein d'un tournage, une sorte de chef de plateau. Vous avez travaillé avec Nicolas Parizère sur Alice et le maire, mais aussi avec Robin Campillo, Céline Sciamma ou Sylvie Vered et même Louis Garrel. Elle, c'est la mémoire d'un tournage, responsable de la continuité du récit. Bonjour Jeanne Fontaine-Sarda.
Bonjour.
Script et notamment de l'Adjli sur Les Misérables. Et enfin, l'interface entre le plateau et le monde extérieur, le régisseur général. Bonjour Laurent Rizon.
Bonjour.
Régisseur général, donc en charge de toute la logistique d'un tournage. C'est énorme, comme votre expérience avec Polanski sur J'accuse, mais aussi Dupontel, Chabat, Maïwenn, Honoré et tant d'autres. Enfin, elle est sortie de ce mercredi entre Judy et l'État sauvage, Dark Waters, Invisible Man et Cyril l'agriculteur. C'est parti.
Bah, dis-le.
Ah bon? Alors, le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Roman Polanski pour J'accuse.
Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost.
L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie.
Puisqu'ils ne sont pas présents.
Peut-être.
Tempête à l'intérieur des missions du comité des Césars et à l'extérieur, les manifestations contre Polanski, ce qui augurait, Laurent, d'une cérémonie, la 45e, entre deux chaises et entre deux époques.
C'est le moins qu'on puisse dire. On va quand même rappeler, parce qu'il faut le faire, qu'il y a 4500 votants et que le palmarès, eh bien, c'est l'expression directe électorale de ces 4500 votants qui, chacun, en son âme et en conscience, on peut le penser, non pas dans l'isoloir, mais dans son salon ou dans son bureau, a voté. Voilà, donc c'est ça le résultat. Et il faut le prendre comme ça, je pense. C'est la meilleure façon, parce que c'est en plus un beau résultat qui affiche une agréable diversité du cinéma français. Il n'empêche, comme vous le disiez, que je crois qu'on peut le dire, que la cérémonie est ratée. Ça donnerait plutôt raison à ceux qui, comme beaucoup, pensaient qu'il aurait mieux valu annuler cette cérémonie, faire de 2020 une année blanche de ce point de vue-là. Là, on a eu peut-être le pire du pire de ce que ça peut donner quand tout est plombé, quand personne ne parle sincèrement, quand les masques ne tombent pas, contrairement à la petite petit sketch de Florence Foresti au début, et quand l'hypocrisie est à l'ordre du jour, on se serait cru chez Tartuffe caché ce réalisateur que je ne saurais voir. Et peut-être ont-ils raté, ces spectateurs-là, la seule belle occasion de tous se lever, de tous applaudir une cinéaste défunte cette année, Agnès Varda, parce que elle, c'était une cinéaste femme, une grande cinéaste féminine, celle de L'une chante, l'autre pas, celle de Cléo de 5 à 7. Là, finalement, ça aurait été une magnifique affirmation d'un consensus tous autour d'une cinéaste.
On gardera un très joli moment, la remise du prix à un grand acteur, Roche Dizem, dans Roubaix, une lumière.
Je fais un métier qui m'a permis de... qui me permet de vivre une expérience exceptionnelle, extraordinaire, captivante. Et donc je voudrais dire à tous ces metteurs en scène qu'ils ont toute ma gratitude, tout mon respect. Je voudrais aussi transmettre mon respect à Arnaud, magique Desplechin, qui transforme le moyen en bon, le bon en très bon, le très bon en excellence. Merci, merci pour cette invitation. Merci pour ton regard. Merci pour ce rôle. Meilleur acteur, certainement pas. Meilleur rôle, peut-être, ouais, franchement. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui ont le sentiment dans la vie, parfois, de partir d'un peu trop loin, que ce qui est important, ce n'est pas de courir vite dans l'espoir de rattraper ceux qui sont devant, mais de courir plus longtemps. Et pour terminer, je voudrais dédier ce César à mes deux héros. Fatima et Gilali Zanzem, mes parents. Ils ont fait ce que je suis, je leur dois tout, et soyez-en sûrs, s'ils étaient là, ils vous remercieraient un par un. Je le fais pour eux. Merci beaucoup.
Respect pour Roche Dizem. On est très content aussi pour M de Yolande Zoberman. On est très content pour J'ai perdu mon corps, Jérémy Capin. Et pour Parasite, bien sûr, de Bong Joon-ho. Et ce merveilleux petit épisode. Mais nous, le cinéma, nous le célébrerons ce matin à notre façon.
Plus d'animation à la terrasse du café. Madame Opticien, repartez. La voiture rouge. Plus vite la voiture rouge. Sortez la voiture rouge, disparaissez. Attention, Walter. On resserre sur Alexandre. On avance sur Alexandre.
Coupez.
La nuit américaine, François Truffaut raconte le tournage d'un film de l'intérieur, les tourments de son metteur en scène et ceux de ses acteurs, et interroge la vérité derrière l'illusion. Alors, à vous trois, ce matin, on va dire Jeanne Fontaine-Sarda, script Laurent Rizon, régisseur, et Valérie Roucher, première assistante. Un tournage, bien sûr, aucun ne se ressemble, mais à chaque fois, c'est une aventure particulière. C'est presque un travail en open space où tous les postes doivent converger vers une seule chose, c'est le film. Valérie.
Oui, oui.
C'est particulier, un tournage.
C'est un petit moment, un moment intense, oui. Et, comme un petit morceau de vie détaché de la vie réelle. Un peu.
Laurent Rizon.
Ouais, chaque film est un prototype, en fait. Ouais. Hein, voilà. À chaque scénario, ses particularités, effectivement, faut savoir s'adapter. Et puis créer la petite enclave qui permet de faire travailler toute une équipe et un réalisateur pour mener à bien. Un beau film.
Et la plus jeune de vous trois, alors, Jeanne Fontaine-Sarda.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Travail d'équipe, vraiment, un travail d'équipe. Un réalisateur qui sait fédérer aussi, je pense, oui. Qui donne le ton. Ça, souvent, c'est le cas. Et voilà, c'est magique, effectivement, quand on est en tournage, on a l'impression d'être dans une petite bulle.
Ouais. On va raconter chacun de vos métiers. On va commencer par la première assistante mise en scène. Vu par Benoît Poulvord.
Jean-Paul Allègre, c'est... Jean-Paul Allègre, c'est le premier assistant, on lui doit respect.
Forcément.
Jean-Paul Allègre, c'est... Silence ! Chut ! Silence ! Je demande le silence ! Sinon, c'est le brouhaha !
Moteur demandé.
Ouais. Ça, vous allez le voir pendant la prise. Parce qu'il a fait une explication il y a deux jours, parce qu'il y avait 70 figurants, 70, 70... Et alors il a donné une explication du système du brouhaha. Et il a fait... Écoutez, maintenant c'est le silence, hein, parce que sinon il y en a un qui parle, et puis il y en a un autre qui parle avec l'autre, et puis alors un qui parle à l'autre, et puis enfin quand tout le monde parle, et on ne s'entend plus. Et c'est le brouhaha.
Alors, Valérie Rouchet, est-ce qu'il faut avoir une grosse voix sur un plateau quand on est premier assistant?
Ça peut aider. Je pense que maintenant, surtout à l'ère de MeToo et du 50-50, on peut être entendu quand on a une petite voix aussi.
Ah, parce qu'avant, vous n'étiez pas entendu.
Ça aide à
et
ça
avant,
aussi.
Il y avait beaucoup de premiers assistants et peu de premières assistantes. Ouais,
ah oui. Alors, votre métier, c'est un métier, je disais, pivot, car beaucoup dépend de vous, le plan de travail, l'organisation des journées. C'est quoi être premier assistant d'un réalisateur ou d'une réalisatrice?
Bah, c'est de faire en sorte que tous les éléments pour la séquence, pour la scène, soient présents. Donc, que ce soit en déco, les acteurs, les figurants, et que tout s'organise le mieux possible pour que le réalisateur ou la réalisatrice soit content de mettre en scène ces différents éléments.
Voilà. Quand je dis chef de plateau, c'est vrai ou pas? C'est vous la voix du plateau? Laurent Rizon acquiesce.
Oui, normalement, on est censé avoir le silence pour que le réalisateur s'exprime et exprime son art.
Ouais.
Donc oui, c'est un peu c'est là où tout converge pour c'est un métier où on va vers le premier assistant pour savoir ce qui va se passer par la suite, pour savoir si à quelle heure on mange, pour savoir à quelle heure on termine aussi.
c'est vous qui êtes là la première le matin et la dernière le soir, quasiment.
Avec la régie.
La régie est là tout le temps avant tout le monde.
Oui.
Prépare tout le confort de tout ce petit monde.
Mais vous, c'est une tension nerveuse très forte du coup. Si vous êtes autant le bureau des plaintes, le bureau de ceci, le bureau de cela.
On nous sent les cahiers des doléances pendant, avant, après. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est une tension assez forte quand même sur le plateau. Bon, après, il n'y a pas que les assistants qui ont cette tension. C'est toute l'équipe image, toute l'équipe son.
Vous êtes le réceptacle.
Et voilà, les assistants sont le pivot, c'est ce que vous avez dit, c'est un bon mot, qui permet d'organiser tout ça.
Est-ce que vous pouvez avoir une influence sur le fond, sur l'histoire? Par exemple, vous tournez une scène, il n'y a peut-être pas assez de crédit pour ça, ou... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pouvez modifier presque une histoire en disant au metteur en scène, cette scène-là, elle n'est pas indispensable?
C'est très délicat de dire à un metteur en scène que sa scène n'est pas indispensable.
Mais ça peut arriver.
Ça dépend de la proximité qu'on peut avoir avec un metteur en scène. Certains vont garder l'assistant comme un technicien vraiment, d'autres peuvent intégrer que c'est un collaborateur. Ça dépend de l'assistant et du metteur en scène. Mais en amont, en préparation, il peut y avoir concertation avec la production, avec la régie, avec beaucoup d'autres, surtout avec la production, pour se dire, bon, là, il va falloir réduire. Et dans ces cas-là, on peut enlever, on peut faire différemment pour telle ou telle séquence. C'est un rapport aussi avec la durée du film, parce qu'on veut qu'un film soit à peu près formaté, on va faire appel à un minutage. Donc là,
de la script,
qui va pouvoir faire ça.
Et travailler avec Parizère, comme vous l'avez fait sur Alice et le maire, il y a une note particulière avec lui?
C'est formidable.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est ce que tout le monde dit.
On se croirait au César.
C'est
comme Anaïs, qui l'a dit et qui l'a redit. Et c'est vrai que... Ce film, c'était un vrai bonheur de bout en bout. Et elle a remercié tout le monde. Évidemment, Nicolas, et évidemment, Fabrice Lucchini. Et je crois que j'ai entendu qu'elle a remercié toute l'équipe, alors moi aussi je la remercie à son tour. Et
nous on la salue parce qu'on lui avait dit qu'elle l'aurait, le César. Elle ne nous croyait pas, mais nous on l'avait dit ici qu'elle l'aurait.
Ouais, c'est très sympa. Oui, je trouve ça vraiment chouette qu'elle l'ait eu parce que ce film méritait d'exister plus.
Absolument.
Un petit peu.
Mais quand je demandais.
Et avec Nicolas, il a cette il écoute tout le monde, Nicolas. Il a cet esprit très. Le chef opérateur a son mot à dire, la script a son mot à dire, l'assistante a son mot à dire, et après il fait son choix. Donc oui, c'est très intéressant, et on peut se rendre utile au film encore plus qu'avec d'autres.
Question que je pourrais poser à tous les trois, est-ce qu'on rêve petite de devenir premier assistant de réalisateur?
Non, moi non, pas du tout.
Non.
Surtout que c'est un peu frustrant parce que quand le tournage s'arrête, ben on laisse le bébé au montage et ça fait toujours bizarre, et j'aime bien moi aller au montage parce que j'aime bien voir la suite. Enfin, on est vraiment imprégné d'un film. Voilà. Alors après, certains vont aller vers la production, d'autres vont aller vers la réalisation. Et puis, certains vont rester assistants réalisateurs, et c'est très bien aussi.
Vous pensez que votre poste mériterait un César ou pas ?
Oh non, on n'a pas besoin. C'est l'équipe réalisation peut-être qu'il faut remercier quand on est content de son équipe réalisation. Quand le réalisateur reçoit son César, il peut remercier son équipe s'il pense qu'il s'est bien entendu avec son équipe.
Vous avez des assistants, vous, l'assistante ?
Oui, alors il y a un second ou une seconde assistante.
Ouais. C'est eux qui vont chercher des comédiens dans leur caravane, comme on voit dans les films ?
Souvent, c'est les troisièmes assistants, même.
Ça va combien ? Il y a combien, comme ça ?
C'est un peu la punition hein, d'aller chercher les comédiens parce dans les caravanes, parce qu'ils ne sont jamais prêts.
Ils ne veulent pas sortir.
Ils ne veulent pas sortir avant que sur le plateau on soit prêt. Et c'est un micmac pour savoir qui va être prêt avant. Et finalement, personne ne veut y aller.
Voilà. Celui ou celle qui ne quitte pas le réalisateur d'un iota, c'est la script. Encore une fois, on va écouter la script version Benoît Poulvorde.
Allons voir Joël. Joël, c'est la script. C'est-à-dire que Joël, et regardez bien, elle a son petit chrono. Hein,
oui.
Déjà, elle mesure le temps des prises. Et en fait, Joël regarde tout. Elle regarde d'abord si ça raccorde, parce que Stanley, il est malin, mais il n'a pas inventé l'eau chaude. Et surtout, elle regarde que nous ne fassions jamais d'erreur. Vous savez, quand on dit dans le film, c'est juste, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Joël. Vous savez, dans un film, quand on dit c'est pas possible, il vient de fermer la porte à gauche, et puis après la porte est encore ouverte quand on le voit dans l'autre plan. C'est grâce à Joël que ça n'arrive pas.
Il a raison, Benoît Poulvorde, c'était sur le tournage des Portes de la Gloire.
Oui, il a totalement raison, effectivement. On gère les raccords du film, on chronomètre chaque prise pour savoir combien de temps ça dure. C'est pas le plus fun du métier, mais effectivement, ouais. C'est ce qu'on fait, ouais.
On peut dire, en résumant votre métier un peu sommairement, que c'est la mémoire d'un film, votre métier.
Oui, on est la mémoire du film, on gère la continuité, on a un regard critique sur la mise en scène, on accompagne le réalisateur au maximum. Avec la place qu'il nous donne aussi, comme disait Valérie, ça dépend aussi des moments.
Alors vous, c'est un exemple très particulier parce que Ladjili n'avait jamais tourné un tournage traditionnel, comme on dit. Je crois même qu'il doutait de votre existence au départ.
Oui, au début, on m'a dit, enfin même lui me l'a dit, qu'au départ, il voulait pas prendre de script. Pas forcément parce qu'il n'aimait pas ce poste-là, mais peut-être qu'il n'avait pas une connaissance extrême, vu qu'il vient du documentaire, qu'il faisait du cop-watching avant.
Oui.
Et donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai expliqué mes ex-collaborations, comment ça se passait, comment j'intervenais. Et je connaissais bien aussi le chef opérateur de son film, qui me recommandait, donc il lui a fait confiance. Et comme là, j'avais très confiance envers son chef opérateur.
Mais lui ne cadrait pas, il nous avait dit ça à l'émission, effectivement, il a toujours cadré, lui, avant ses docs.
Oui.
Et pour une fois, il était vraiment assis comme un metteur en scène.
Oui.
Non, mais ça devait être une révolution quand même pour lui.
C'est vrai que ça a dû être très très difficile pour lui de lâcher.
Oui.
Mais il avait des cadreurs formidables. Donc il était hyper, très très content, quoi. Il leur faisait confiance.
Vous disiez porter un regard critique sur la mise en scène, ça veut dire quoi ?
En fait, on a du recul. Y a un ami réalisateur qui me disait que le script, c'était son premier spectateur. Et donc, c'est un peu ça, en fait. On regarde le film avec le réalisateur. On est une des rares personnes du plateau à avoir le scénario avec nous, entièrement. Personne n'a le scénario avec lui de A à Z.
C'est ce qu'on appelle le script. C'est votre Bible. C'est ce qu'on appelle la Bible.
Oui, c'est notre outil de travail, c'est tout, c'est notre précieux, quoi. On le lâche pas.
Mais vous le prêtez parfois, vous le montrez à d'autres?
Alors, je le montre, mais je le garde dans les mains. C'est vraiment.
Ah ouais?
Non, mais ça, j'exagère un petit peu, mais je le quitte pas des yeux, en tout cas. Je le laisse à quelqu'un s'il veut le consulter, mais je le lâche pas. J'en ai besoin tout le temps, en fait, sur le tournage.
Jeanne Fontaine-Sardin, il faut expliquer un truc très important qui a l'air évident pour vous. C'est que vous êtes responsable de la continuité du récit, parce qu'il faut le dire, majoritairement, les films ne se tournent pas dans l'ordre.
Tout à fait.
Ça veut dire que, par exemple, à la fin d'une scène, si c'est un plan large, c'est très important par rapport à la scène suivante, ou un plan serré. Pareil pour des détails de pluie et d'autres, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a ces raccords-là. Il y a les raccords dans les scènes. Il y a les raccords entre les séquences. Il y a les raccords costumes, les gestes sur parole, etc. Il y a aussi le raccord dans le jeu. Mmh. Ça peut arriver que si un comédien arrive le matin, il a une scène très intense, il n'est pas forcément encore dedans. Et en fait, on est là aussi pour lui rappeler, lui dire attention... la séquence d'avant, tu as perdu ta mère, c'est vrai, on l'a tournée il y a 3 semaines, mais je te le rappelle quand même.
Oui, mais...
pleure un peu.
Voilà.
Le spectateur que je suis a l'impression que le gros problème dans le cinéma, c'est le niveau du liquide dans les verres. Parce que
il me semble
que ça, c'est le casse-tête.
Ou les cigarettes
avant, on en voit un peu moins, mais le niveau du liquide dans les verres, c'est terrible.
Alors, pour moi, c'est du détail, tout ça. Moi, je suis un peu une mauvaise parole de script parce que je suis pas attachée aux petits raccords comme ça. Ouais. C'est pas des choses qui pour moi sont très importantes.
Galabru un jour a dit à Sylvette Baudreau, il dit, vous devez être chiante dans la vie à tout remarquer. Un cheveu sur une veste, c'est pas votre cas.
Quand même, je suis assez observatrice.
Oui. Ouais.
Quand vous demandiez si on voulait devenir script ou premier assistant, oui, etc. Oui. Moi, je voulais pas. Enfin, je savais même pas que ça existait. C'est en école de cinéma que j'ai découvert ça. Et quand mon professeur m'a dit, alors pour être script, il faut être observateur, il faut être psychologue. Et ça, je me suis dit, oh, c'est tout à fait moi. Et donc voilà, je me suis retrouvée. Il faut être effectivement très très observateur, remarquer tous les petits détails. Et après, avec le temps et l'expérience, on apprend à lâcher et à se dire qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui
Vous êtes la seule à connaître le minutage du film, je veux dire, a priori, vous savez combien de temps va durer le film ?
Oui, mais pareil, tout ça, c'est très très subjectif, un pré-minutage, on a un scénario, là, on m'a dit dernièrement que le film d'Haneke, il faisait 40 pages, enfin, c'est... on n'est pas... C'est une estimation, on discute beaucoup avec le réalisateur en amont, on essaie de lui dire, voilà, est-ce que tu veux faire un film lent, un film découpé, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites... Voilà, là, sur le film de Lajli, typiquement, le pré-minutage, il était symbolique. C'était pas un truc sur lequel on pouvait vraiment se fier.
Valérie Rouget, c'est pareil avec pour vous, enfin, je veux dire, c'est très
important. Oui, on nous demande, on nous dit, bon, alors voilà, ce scénario fait 80 pages, donc tu vas avoir cette semaine de tournage, et c'est tout. Et parfois, ça va pas du tout, parce que, effectivement, 40 pages pour Haneke, ça peut être une ligne et un jour de tournage. Enfin, je pense qu'il faut vraiment discuter avec le réalisateur de comment il veut faire, savoir si effectivement il y a un découpage précis. C'est toujours compliqué quand on ne connaît pas un réalisateur en plus, de savoir combien de temps va durer une scène et donc combien de temps il faut pour la réaliser.
Jeanne Fontaine-Sardin, on était un peu choqués hier soir sur la scène des Césars avec toute cette équipe. Il y avait beaucoup d'hommes et pas de femmes. Or, une femme, la monteuse du film, avait reçu le César. C'était un tournage très masculin, on peut dire. C'est misérable.
Oui, c'était très masculin.
Ouais.
On était un peu dans le cliché, c'est-à-dire que les femmes qui occupaient les postes de ce film, c'était habilleurs, maquilleurs, script, et monteurs. Monteurs, oui, c'est vrai que effectivement, je l'ai dit au masculin, je sais même plus si je dois le dire au masculin ou au féminin.
En tout cas,
mais
c'est une femme.
Oui, c'est une femme, et c'est vrai que j'étais déçue de pas voir Flora avec l'équipe, Flora Volpelière, la monteuse du film, sur scène. Hier soir, quand tout le monde est monté pour le meilleur film, peut-être que c'est par timidité de sa part. On n'a pas l'habitude d'être en devant de la scène quand on occupe des métiers comme celui-ci.
Ouais.
Donc je ne sais pas, mais effectivement, il y avait beaucoup d'hommes.
Et sinon, est-ce que un César comme ça peut vous aider dans votre métier à vous de script pour la suite?
Alors bien sûr, un film qui a des récompenses comme celle-ci, ça fait briller. Mais après, nous, notre meilleure publicité, c'est les réalisateurs avec qui on travaille. Éventuellement des membres de l'équipe technique. Donc là, par exemple, pour Ladj, c'est le chef opérateur avec qui j'avais déjà travaillé. Donc c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils savent comment on travaille et qu'ils savent que... On risque de correspondre en tout cas à ce réalisateur.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de CV envoyés dans ce métier. C'est plutôt par la bande, non, Valérie Rouget ?
Oui, hein, c'est par la bande.
Alors lui, c'est le régisseur. On vous a choisi un petit extrait, pardon, hein, parce qu'on n'avait pas de Poulvord sur le régisseur. En revanche, on avait la nuit américaine, et notamment la femme du régisseur.
Bon, s'il vous plaît, madame, vous pouvez reculer de 2 ou 3 mètres. Vous êtes dans le champ de la caméra. Merci beaucoup, madame. Elle est incroyable, cette femme, elle est toujours là.
Bon, t'as pas dit, c'est la femme du régisseur.
Si, si, je sais, mais quand même, elle est vraiment toujours là, elle fait un stage ou quoi?
Non, la vérité, c'est qu'elle est folle de jalousie, elle croit que toutes les femmes courent après son mari, elle lui empoisonne l'existence. Il devrait la larguer, mais il n'aura jamais le courage. Tu sais comment on les appelle tous les deux dans l'équipe? Le chagrin et la pitié.
Laurent Rison, votre femme vous accompagne sur les tournages?
Non.
Alors, le régisseur, c'est très important. C'est capital, c'est ce qui ne se voit pas dans un film, mais c'est ce qui organise tout, c'est en charge de la logistique d'un tournage. Je disais, l'interface entre le plateau et le monde extérieur. Vous gérez tout, en fait, des places de parking à l'hébergement de l'équipe jusqu'à l'installation d'une cantine, le transport du matériel, les techniciens, les comédiens. Allez-y maintenant, racontez-nous votre métier.
Mais vous l'avez bien résumé, en fait. Hein.
Ouais.
Ouais, non, c'est un métier avec un spectre assez large. Hein,
ouais.
Parce qu'il y a la partie décor, il y a la partie effectivement hébergement, transport. Nourriture.
Oui.
Et puis il y a la partie.
C'est un métier qui commence avant, bien avant le film, le tournage. Il faut le dire.
Bah, on commence généralement en même temps, c'est avec la première assistante, le directeur de production par qui je suis embauché en fait, la plupart du temps. Et puis le chef décorateur. Généralement c'est le pôle qui commence en tout début de tournage. Et moi je m'intéresse plus particulièrement au décor. Alors là, il y a des repéreurs qui s'occupent aussi de trouver des décors. Et moi, je suis chargé de prendre contact avec les personnes qui gèrent ces décors. Alors les décors, quand je parle de décors, en fait, c'est décors naturels. Parce que souvent, dans le cinéma français, on tourne dans des lieux réels. Mmh. Parce que le studio, même si ça fait partie de certaines options, c'est une option coûteuse.
Ouais.
Donc, on peut aller tourner dans une mairie, dans une gare, dans un aéroport, dans la rue, chez quelqu'un. Et donc, je suis en charge de contacter à chaque fois les personnes qui gèrent nos interlocuteurs pour essayer de trouver un terrain d'entente entre le planning d'un film. Qui est contraint par des comédiens, par une multitude de choses, et puis les contraintes d'un lieu. Donc c'est là où la réalité nous rattrape. Quand vous allez tourner dans une ambassade, dans un ministère, évidemment, il y a la raison d'État qui peut vous rattraper.
C'est arrivé. Sur J'accuse.
Oui, sur J'accuse, on tournait dans les coms militaires pour la dégradation, enfin en partie. Et on nous a annoncé qu'il y avait le ministre de l'Intérieur qui arrivait, quoi. Donc alors. De toute façon, raison d'État, vous voyez, tout le monde est, y a plus qu'à faire une révérence. Et puis on attend que ça passe, quoi. Enfin, ils nous avaient prévenu un petit peu à l'avance. Je vous cache pas qu'un tournage, c'est rarement un plan qui se déroule sans accroc, en fait.
Ouais.
Parce que il y a des impondérables tous les jours. C'est vrai que nous, quand on a commencé à tourner sur J'accuse, le premier lundi de tournage, on l'a tourné en extérieur. Rue Saint-Dominique, rue de Lille, on tournait dans l'ambassade de la résidence du l'ambassadeur d'Allemagne, depuis une fenêtre en face, et avec des figurations, des véhicules de jeu d'époque, des calèches, des voitures, et une semaine avant, il y avait les trottoirs qui étaient complètement éventrés sur les bas-côtés, puisque GRDF, EDF, etc. étaient là, et tout était ouvert, comme ça. Et donc ça faisait un certain temps que je travaillais sur le sujet, et puis évidemment, nous on est en contact avec la mairie de Paris, la mission cinéma qui nous aide quand même assez efficacement dans le domaine, Michel Gomez.
C'est bien de le citer.
Et entre autres, il y a toute une équipe. Et donc il m'a fait rencontrer l'attaché de Rachida Dati, la mairie du 7e, qui m'a aidé dans la démarche. On a contacté des gens, et là. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on rebouche, sauf qu'on est au deuxième épisode, le week-end des Gilets jaunes, dans un secteur à côté de l'Assemblée nationale. Et donc j'y étais, le samedi j'y étais pour voir comment les choses évoluaient, donc c'était pas très drôle en fait. C'est ce genre de moment qui peut nous arriver. On a eu, comme je vous le racontais, un épisode où on tournait Cité de Trévise, on préparait Cité de Trévise, c'était toute une séance extérieure. On a commencé à préparer le service décoration qui prépare les extérieurs, les boutiques, etc. La prise de contact avec tout le quartier. Et deux semaines avant, on était déjà en préparation, parce qu'il y a au moins un mois de préparation dans ce genre de cas, ou trois semaines, l'explosion de la rue de Trévise. Là, vous prenez la mairie de Paris qui vous appelle, on a un problème. Parce que nous, on avait une logistique, en l'occurrence, sur ce genre de tournage, vous avez 20, 25, 30 camions. Alors, ça parle, c'est pas très parlant, mais on crée une enclave dans un quartier, on change les habitudes des gens, et donc tout ça, faut le faire en douceur, en souplesse, on essaie de s'adapter à toutes les situations, et là, la mairie nous demandait de nous adapter à des circonstances dramatiques, il y a des gens qui avaient été touchés gravement par ce qui s'était déroulé, et là, quelque part, on vous demande de disparaître. Ou même de pas le faire, quoi. Alors après, faut essayer de trouver des points de concours. Voilà, donc on ménage les choses, on essaie d'entrer dans une diplomatie.
Je disais que vous occupez aussi de la cantine, mais c'est très important la cantine, parce que si on mange bien, on tourne bien.
Je vous laisse en parler peut-être.
Non,
c'est vrai que c'est un sujet. C'est-à-dire que le choix de la cantine fait partie des sujets importants au début de tournage. Et on a quelques bonnes adresses. C'est un métier extrêmement difficile, surtout maintenant. Parce qu'il y a des véganes, il y a des sans gluten,
il y a plein
de diversité dans la façon de se nourrir. Et je vous cache pas que pour eux c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué d'autant plus que Nous, en fait, on est un petit village hein, qui bouge comme ça. Mmh. Donc, on peut sur le film J'accuse, on pouvait passer de 100 à 500. Ça dépendait des jours. Et la cantine doit être capable de nourrir 300, 400 personnes en une heure. Voilà.
Ouais, c'est un défi énorme.
C'est un vrai défi. Puis ça demande une logistique énorme hein, parce qu'évidemment, faut installer tout ça. Tout ça principalement dans Paris, parce qu'on a tourné le projet au début devait partir peut-être à Bordeaux, plutôt en région parisienne. À un moment donné, Roman Polanski s'est dit qu'on allait gagner beaucoup de temps, il a eu raison, à tourner la plupart des scènes à Paris.
On va parler d'une chose que les gens ne connaissent peut-être pas bien, c'est l'idée de hiérarchie sur un plateau. Et là, on va faire encore appel à la bonne parole de Benoît Poulvorde.
Donc c'est bon Guillaume là ?
Voilà, c'est réglé.
Et on se remet en départ s'il vous plaît.
Ça y est, t'as mis 35 là, c'est ça ?
Ouais, ça y est.
Alors allons-y.
Le cinéma est très hiérarchisé. Hein. Ça vous devez le savoir, c'est pour ça que les gens acceptent de travailler à des postes tout à fait ingrats, fort jeunes. Et le stagiaire par exemple, il faudrait avoir beaucoup d'affection et de respect pour le stagiaire, parce que le stagiaire au cinéma, il accepte de travailler et souvent, il n'est pas payé. Parce qu'il y a une espèce de loi du cinéma qui tente à dire que la hiérarchie s'installe et qu'il faut la respecter et que donc vous devez démarrer au bas de l'échelle si vous voulez arriver à une place plus confortable. Et donc, travailler au bas de l'échelle, c'est-à-dire accepter de travailler dans des conditions épouvantables sans être payé. Et il y en a plein sur ce tournage ici. Et alors vous remarquerez qu'on ne rentre pas dans le travail d'un autre. Si jamais, par exemple, le preneur de son dit « Putain, c'est quoi cette image ?» ça va gueuler. Tu te mêles pas de mon truc et je me mêle pas du tien. Vous voyez ? Et en même temps, ils doivent arriver à travailler ensemble. Hein ? Très hiérarchisé, c'est militaire.
Je vous ai vu rire tous les trois, ça m'a l'air d'être assez vrai ce que dit Benoît Poulvorde, Laurent Rizon.
Alors c'est vrai qu'on peut souvent nous comparer à une organisation militaire.
Oui.
Alors,
il le faut
sous forme des charlots quand même, pour souvent, non, mais d'un point de vue vestimentaire, je peux parler. Hein, désolé hein, pour eux.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est très hiérarchisé, effectivement. On va pas aller s'amuser à aller faire un commentaire sur un combo en tapant sur l'épaule du chef opérateur en lui disant « Mais pourquoi t'as mis un 25 mm ?» Voilà, ça ne nous concerne pas.
La script peut dire à la première assistante quelque chose ou... Je pense que c'est plutôt ça se passe aussi entre premier assistant et chef opérateur. Chef opérateur prend souvent du temps pour la lumière, ce qui doit un peu énerver la première assistante.
Alors, faut pas exagérer,
non,
la première assistante, elle comprend pourquoi le chef opérateur installe une belle lumière sur les comédiens. Non, mais il y a souvent des abus de pouvoir, mais pas forcément entre l'assistant et le chef opérateur. Par exemple, sur le film de Nicolas Parizeau, le chef opérateur était vraiment charmant et on s'est extrêmement bien entendu avec la script aussi.
Ouais.
Parfois, c'est le chef opérateur. Un chef opérateur peut être un peu star autant que le réalisateur.
Oui.
Et là, il peut y avoir des frictions.
Ouais.
Et c'est l'assistant qui prend ça un peu dans la figure parce que on n'ose pas trop, quand même, dire du mal du réalisateur.
Ouais.
Donc c'est l'assistant qui prend.
Oui, Jeanne Fontaine-Zarda, vous l'avez ressenti cette hiérarchie.
Ah oui, totalement. Je trouve que c'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile à apprendre. Finalement, enfin, je vais être un petit peu loin, mais quand j'ai commencé, oui, surtout quand on est tout novice, on est passionné, on a envie de donner son avis sur tout.
Oui, c'est
comme ça.
Et, oui.
Et là, c'est ce qu'il y a de pire. Ça pollue, on n'a pas une minute à perdre, en fait, sur un plateau. Donc, si tout le monde donne son avis, on est foutu.
Merci à tous les trois. Vous restez avec nous, Valérie Rouchet, Laurent Rizon, Jeanne Fontaine-Sarda. On se retrouve pour les sorties après. Emmanuel DeVos et Brigitte Fontaine, j'irai pas.
Perdre un César, c'est rater l'équivalent de 5 entretiens d'embauche, mais en robe du soir. Perdre un César, c'est pénible sur le moment, et c'est pire dans les jours qui suivent. C'est une baisse signifiante de la libido, mais chez votre partenaire. Perdre un César... C'est lire du mépris dans les yeux de ses enfants, de l'inquiétude dans les yeux de son agent et de l'ambition dans les yeux de son chirurgien plastique. Mais je tenais à dire aux merveilleuses actrices qui sont nommées ce soir, si vous ne l'avez pas, cela ne veut pas dire que vous êtes moins bonne. Cela veut dire que vous êtes finie.
J'irai pas me coucher, j'irai pas, j'irai pas à votre école, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas me coucher.
Cinéma encore.
Ah, tiens.
Et des films sortis cette semaine. On va commencer par Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. En plein salon d'agriculture, ça tombe très bien, de Rodolphe Marconi, qui a rencontré ce garçon par hasard sur une plage de la côte atlantique, alors qu'il le voyait depuis 3 jours s'avancer vers la mer, sans jamais se baigner. Marconi est allé à sa rencontre. Quand Cyril a commencé à me raconter son histoire, ça m'a percuté de plein fouet. Portrait sensible d'un jeune agriculteur criblé de dettes et solitaire, très solitaire, Laurent.
Oui, Rodolphe Marconi, il faut le rappeler, c'est un cinéaste.
Oui.
À la base, c'est un cinéaste de fiction. Et ça se sent dans ce documentaire qui est vraiment filmé, où il y a du cinéma, où il y a un regard de cinéaste sur ce héros malgré lui, en quelque sorte, sur ce jeune homme dont on suit, il faut le titre l'indique, dont on suit la déchéance, en tous les cas professionnelle, évidemment, qui va être confronté à une situation de dette, de bilan social, enfin bon, donc ce qu'il vit est abominable, et Marconi le filme au plus près, avec une empathie, une bienveillance, une sympathie extrêmement forte, le courant passe entre tous les deux, et ce qui se dit là, c'est bien au-delà d'un simple portrait d'un paysan, en plus dont on sait qu'à un moment qu'il est homosexuel, donc ce qui renforce sa difficulté de vie, l'homosexualité dans le milieu agricole, c'est certainement pas le plus facile à vivre, mais bref, ce portrait d'un jeune paysan, ce portrait de ce Cyril, qui n'est plus d'ailleurs paysan maintenant, une fois que le film a été terminé. Oui, bah bien sûr, il est obligé de faire autre chose. Il est déjà dans le film, il est serveur dans un restaurant à midi, tellement il a peu d'argent. Donc c'est vraiment un très très beau portrait. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait et des dettes.
Un autre portrait, celui de Judy Garland dans Judy de Rupert Gould. Oui, alors c'est un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique sur Judy Garland, mais prise dans ce film à deux moments clés de sa vie. Au début, le tournage du Magicien d'Oz, et à la fin, à 6 mois de sa mort, quand elle cachetonne à Londres pour recueillir l'argent dont elle a besoin pour récupérer ses enfants. Le film, c'est elle, Renée Zellweger. Cette osmose totale avec son modèle, certains lui reprochent cette performance mimétique. Moi, j'y verrais presque un double portrait. Celui de Garland et de Zellweger, elle qui a été fragilisée après le succès planétaire de Bridget Jones, et au-delà du maquillage, des postures, la ressemblance est là, et c'est ce qui rend ce portrait terriblement émouvant.
Oui, ben moi je suis pas très ému quand je vais au musée Grévin, quoi. C'est ça le problème. Donc là, comme vraiment j'ai eu l'impression d'être au musée Grévin, je me suis finalement concentré sur ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement sur la façon dont on habille, maquille, dont on effet spécialise un visage féminin et un corps féminin pour le rendre autre que ce qu'il est dans la réalité.
Moi, j'aime beaucoup l'idée de rejoindre deux périodes, l'enfance avec les premiers traumas à travers ce tournage. Mais bon. L'État sauvage, deuxième film de David Perrault, après Nos héros sont morts ce soir, dont on avait beaucoup aimé la singularité. Ce nouveau projet est très ambitieux. États-Unis, 1861, la guerre de sécession fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage. Un western au féminin, c'est rare. Une grande ambition formelle, au détriment de personnages corsetés, d'une intrigue maladroitement exposée, et l'ennui qui gagne. Mais quel dommage, parce que dans ces paysages, Perrault nous offre vraiment de très belles scènes, et non, ça ne fonctionne pas.
Mais oui, il y a surtout cette déception qui arrive, mais au bout de deux minutes, quand on a terminé de lire le premier panneau sur l'écran, l'annonce qui nous dit que au moment de la guerre de sécession, les Français étaient là, et Napoléon III leur dit « Non, mais vous choisissez pas entre les deux camps, vous choisissez pas. » C'est une situation de dingue. Moi, je connaissais pas cet épisode historique, et on se dit « Mais quel film ça va donner ?» Imaginez-vous des gens comme ça pris entre deux feux et dont l'autorité leur dit « Non, mais... ne choisissez pas. » Alors évidemment, c'est un destin abominable, et le film ne se déroule pas du tout comme ça, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. C'est un propos effectivement vaguement féministe, donc quand même la lourdeur est là, hein. L'idée c'est que les hommes disparaissent progressivement tout au long du film et qu'il ne reste plus que l'héroïne à la fin. Comme propos féministe, on fait quand même beaucoup mieux.
Dark Waters de Todd Haynes, l'histoire vraie de Robert Billott, avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est en fait empoisonné par une usine du puissant groupe chimique Dupont, premier employeur de la région. C'est une enquête minutieuse sur de nombreuses années, sur l'acharnement d'un homme. Un film réquisitoire à la narration limpide, sans effet de manche, mais du coup pas de scène marquante, comme si Todd Haynes s'empêchait des effets. Moi, on peut pas s'empêcher de penser à trois films cousins derrière ce film. Erin Brockovich, bon, beaucoup plus léger, et puis le film de Coppola, L'idéalisme, et surtout Spotlight, avec une enquête aussi rigoureuse, avec le même Mark Ruffalo, qui provoquait beaucoup plus d'empathie.
Oui, on peut penser aussi à Révélation de Michael Mann, oui, par exemple. C'est dans cette veine-là, vous avez tout à fait raison. Alors, vous ne regarderez plus vos poils téflons de la même façon une fois que vous aurez vu le film.
Bon, oui, c'est vrai.
Une certitude. Est-ce que ça suffit à légitimer d'aller en salle? Je ne suis pas certain. C'est une fois de plus, effectivement, comme vous l'avez dit, le combat de l'homme seul contre tous, contre surtout, là, en l'occurrence, Dupont de Nemours. Mais malheureusement, on ne retrouve pas Todd Haynes, quoi, parce que Todd Haynes, c'est un cinéaste qu'on aime, c'est un cinéaste singulier. Là, il semblerait quand même que ce soit une œuvre de commande. Alors, il fait le job, mais pas plus.
Invisible Man de Lee Whannell. Alors, Cecilia Cass et Elizabeth Moss est en couple avec un brillant et riche scientifique, ne supportant plus son comportement violent et tyrannique. Elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et de sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, elle commence à se demander s'il est réellement mort. Mais quelle fantastique idée d'associer le personnage de l'homme invisible de H.G. Wells à une histoire de harcèlement, une métaphore d'une redoutable efficacité pour décrire le réel péril que représente le harceleur pour la femme. Elle le ressent, le craint partout. On ne la prend pas au sérieux comme souvent dans ce genre de situation. Une descente aux enfers, comme beaucoup de femmes en vivent, avec effets spéciaux en supplément et assez terrorisant malgré une fin avec trop de tiroirs, le tout tenu sur un seul visage de tous les plans, celui d'Elizabeth Moss. Elle est absolument phénoménale. Un autre portrait de femme, c'est celui de Lara Jenkins, Laurent de Jane Olgerster. Une femme apparemment froidement déterminée se tient debout à la fenêtre ouverte de son appartement, prête à se suicider, mais on sonne à la porte. C'est une scène d'ouverture saisissante. Cette femme fête ses 60 ans aujourd'hui, et le film se résumera à une seule journée qui va la décrire, cette femme.
Et oui, mais malheureusement, le film se résume à ce seul moment, c'est-à-dire à une sorte de non-évolution. C'est dans le meilleur des cas, on aimerait dire à ne que sort de ce corps, parce qu'on est vraiment assez proche de ça. Alors d'autres y ont vu du Bergman. Alors là, je ne sais pas où il y a du Bergman là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est du Haneke sans finesse, sans complexité, parce que dans La Pianiste notamment, parce que c'est à ça qu'on pense.
On pense à La Pianiste et on pense à Huppert, bien sûr.
On pense à Huppert, évidemment, mais il y a une telle complexité. Il y a le millefeuille se remplit de choses extrêmement complexes, extrêmement fines. Là, tout est donné d'avance. Le film avance à son allure telle qu'il est donné, telle que vous venez de le donner, jusqu'au bout, jusqu'à la caricature. C'est ça qui fait, enfin, ça empêche totalement qu'on s'y intéresse vraiment.
Il s'appelle Lara Jenkins. Oui. Chute de Alain Guyon et Philippe Worms. Chute, c'est ce qu'on dit habituellement quand quelqu'un parle fort dans une bibliothèque. Mais celle-là est particulière. Laurent, à Montreuil, la bibliothèque Robert Desnos accueille ateliers d'écriture pour ados, aide aux devoirs, cours de français pour migrants, filmé par ces deux réalisateurs pendant un an, sans commentaire, mais avec beaucoup de dialogue à l'intérieur.
Bien sûr, on termine par un documentaire, on finit par un documentaire. Bon, c'est comme ça, voilà, c'est une belle semaine pour le documentaire parce que c'est...
On commence, on finit.
Et c'est vraiment une belle façon de le faire, parce que on songe à Frédéric Wiseman qui en 2017 avait fait Ex Libris sur une bibliothèque, alors un peu plus universitaire, mais quand même avec cette idée pour les deux films que au fond la bibliothèque c'est certainement l'un des derniers lieux culturels d'échange, d'éducation évidemment, d'ouverture sur les autres, sur le monde, et c'est une très très belle contribution à ça, c'est-à-dire à cette idée qu'il faut impérativement que les bibliothèques restent au cœur de nos villes et au centre comme ça des relations humaines.
Et enfin une réédition, version restaurée de Luchino Visconti, La Nuit Blanche.
Oui, Nuit Blanche, effectivement. C'était le première adaptation. Après, il y aura Bresson, James Gray, Vecchiali. C'est vraiment un écrit de Dostoïevski qui inspire les cinéastes. Et cette première inspiration avec Mastroianni et Maria Schell est tout à fait intéressante.
Et Jean Marais.
Et,
un petit festival, vraiment très,
un petit
très
festival
rapide.
À l'Est, comme on vous le dit, du 3 au 8 mars, à Rouen, à l'Omnia Kinopolis, avec notamment un hommage à Miloš Forman.
Et les cadeaux, enfin, le même cadeau pour tous les trois.
Ben oui,
en fait.
C'est pas du tout qu'on manque d'imagination, c'est qu'on est fermement attaché à ce film.
On adore ce film.
Alors voilà, Martin Eden, qui est sorti cette année, qui n'a rien eu au César, qui n'a rien eu nulle part, presque, mais pour autant, c'est une très très belle adaptation littéraire, très intelligente, c'est paru chez Shellac, on remercie l'éditeur et on le recommande vivement évidemment à nos auditeurs. Hein. Vraiment, c'est un très beau film, très intelligent, avec une chanson de Joe Dassin qu'on adore.
Ah oui,
au centre du film. Voilà.
Salut, ça s'appelle. salut Valérie Rouchet, première assistante réale. Merci à Laurent Rizon, régisseur. Merci Jeanne Fontaine-Sarda, script notamment sur Les Misérables. On vous laisse, on est bien content. Les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scripts, des premiers assistants et des régisseurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Dalmas.
Et moi, Laurent Rizon, j'y étais.
Et moi, Valérie Rouchet, j'y étais.
Et moi, Jeanne Fontaine, Sarda, j'y étais.